à vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Final Fantasy XVI. On parlera des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, d'une news concernant le jeu Hello Kitty Island Adventure. On aura ensuite une petite news technologie avec le générique d'ouverture qui fait débat en ce moment de la nouvelle série Secret Invasion de Marvel, puisqu'ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour le réaliser. Et on finira avec les sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le test du jeu Final Fantasy XVI. Donc c'est un jeu vidéo de rôle et d'action-aventure qui est jouable en solo. Il a été réalisé par Hiroshi Takai et Kazutoyo Maihiro, avec la musique de Masayoshi Soken. Il a été produit par Naoki Yoshida et développé et édité par Square Enix. Il est sorti le 22 juin 2023 sur PlayStation 5. Final Fantasy XVI se déroule dans un univers médiéval fantastique, bien plus proche de l'héroïque fantasy que ne l'était son prédécesseur. Le jeu est classé PEGI 18 et il obtient une note de 17 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 88 sur 100 sur Metacritic. Annoncé pour la première fois en 2020, Final Fantasy XVI est un épisode attendu au tournant. Après le lancement compliqué de Final Fantasy XV, ce nouvel opus poursuit le virage action entamé par son prédécesseur en allant encore plus loin. Dans le même temps, il propose une forme de retour aux sources avec un univers médiéval, mais dans une ambiance plus sombre et mature. Donc avant de débuter ce test, il est important de connaître l'équipe qui en est à l'origine. Au développement, on retrouve la Creative Business Unit 3 au sein de Square Enix, qui est en charge des MMORPG, à savoir Final Fantasy XI Online et surtout Final Fantasy XIV. À sa tête, on retrouve Naoki Yoshida, producteur et réalisateur de FF14, qui a sauvé le titre après son premier lancement catastrophique en 2010 pour le faire renaître en 2013 dans une version 2.0 intitulée A Realm Reborn. Alors que les extensions s'enchaînent depuis 10 ans, Final Fantasy XIV est devenu l'épisode le plus rentable de la franchise et parmi les plus appréciés des fans. Fort de ce succès, la direction de Square Enix a décidé de faire confiance à cette division pour leur confier le soin de développer ce nouvel épisode. Sur ce projet, Naoki Yoshida n'est que producteur, tandis que Hiroshi Takai, son bras droit lors de la refonte de FF14, occupe le rôle de réalisateur. Pour le scénario, on retrouve Kazutoyo Maihiro, qui a aussi travaillé sur FF14, mais surtout sur Final Fantasy Tactics et Final Fantasy XII, tout comme le directeur artistique Hiroshi Minagawa. Donc si ces figures importantes proviennent de FF14, Ryota Suzuki, le directeur des combats, est un ancien de Capcom. Par le passé, il a travaillé sur Devil May Cry 5, dont l'influence est ici évidente. Donc l'histoire de Final Fantasy XVI se déroule dans le monde médiéval de Valistea, en proie au fléau noir, un mal qui vide la terre de son essence magique et la rend donc invivable. Voyant leurs ressources diminuer, les différentes nations du continent se livrent une guerre pour survivre. La plupart d'entre elles disposent d'un cristal mère, gigantesque formation cristalline, dont on extrait des fragments pour faire de la magie, mais aussi d'un émissaire. Il s'agit d'un personnage qui possède le pouvoir d'un primordial, un nom donné aux invocations de cet épisode, et qui est capable de se transformer en l'une de ses créatures. Dans ce contexte, on suit les aventures de Clive Rosfield, fils de l'archiduc de Rosaria et gardien du Phénix, à savoir le primordial de la nation dont l'émissaire n'est autre que Joshua, son propre petit frère. Alors que le pays s'apprête à partir en guerre pour reconquérir ses terres, l'armée de Rosaria est massacrée suite à une attaque surprise, tuant l'archiduc et Joshua, laissant Clive comme seul survivant. Désormais réduit à l'état d'esclave au service de l'Empire, il jure de prendre sa revanche sur le mystérieux homme à capuche et le second primordial du feu qui ont tué son petit frère. Donc le scénario et l'univers de Final Fantasy XVI sont passionnants. Cela passe par une écriture de qualité qui donne lieu à d'excellents dialogues pour rendre les personnages attachants, leurs relations crédibles et leurs motivations tangibles. D'une certaine façon, Final Fantasy XVI renoue avec les origines de la licence en plaçant au cœur de son intrigue une réflexion sur l'humanité tout en glissant des clins d'œil au précédent épisode. Au centre de cette intrigue, le monde de Valistea est si développé qu'il en devient un personnage à part entière, fascinant par le nombre de détails que les développeurs sont parvenus à imaginer. L'esclavage et la liberté sont des concepts centraux de cet épisode. Par cette écriture qui est loin d'être manichéenne, Final Fantasy XVI parvient à tenir le joueur en haleine sur les 35 à 40 heures que dure son histoire principale. Finalement, son seul défaut, c'est de proposer un début assez lent avec de nombreuses cinématiques où l'on joue assez peu. Par ses aspects sombres et matures, l'influence de Game of Thrones se fait définitivement sentir, comme l'avaient eux-mêmes confessé les développeurs en interview. Injures, nudité, violence sanglante, esclavage, on retrouve tous les éléments qui ont rendu Westeros aussi cruel que réaliste. Si la série de HBO est une influence évidente, il ne faut pas oublier que de précédents jeux de la franchise proposaient déjà ce genre d'univers. Bien avant Game of Thrones, Final Fantasy XII et surtout Final Fantasy Tactics le faisaient déjà. Comme dans ces deux jeux, c'est donc sans trop de surprise que la géopolitique joue un rôle central dans l'intrigue de Final Fantasy XVI, tout en étant mise en scène de façon théâtrale. Et puisque le jeu multiplie les références qui peuvent perdre le joueur, les développeurs ont pensé à tout. En pleine cinématique, la fonctionnalité chronographie permet de faire pause pour accéder à des fiches qui résument les éléments évoqués à l'écran. Plus tard, le repère nous permet de consulter les chroniques de Viviane, qui donnent accès à des cartes pour comprendre ce qui se passe en Valistea. Il s'agit clairement d'options plus que bienvenues, surtout dans une saga dont certains épisodes ont été critiqués pour leur scénario confus, à cause de concepts mal ou pas expliqués. Alors que la saga est réputée pour ses combats au tour par tour, Final Fantasy XVI est un jeu encore plus action que son prédécesseur. Cette fois, on flirte carrément du côté du beat'em up. Donc, comme je le disais, Ryota Suzuki, l'un des game designers de Devil May Cry 5, est le directeur des combats, ce qui se ressent dans le gameplay. Dans Final Fantasy XVI, le joueur contrôle exclusivement Clive tout au long de l'aventure. Manette en main, on dispose d'un bouton pour donner des coups d'épée et faire un combo de base, d'une touche pour lancer de petits sorts à distance, ainsi que d'un saut et d'une esquive. Grâce à l'arbre de compétences, de nouvelles capacités peuvent être débloquées. Pour couronner le tout, Clive est souvent accompagné par son chien Torgal, à qui on peut donner des ordres pour poursuivre un combo, lancer un ennemi en l'air ou encore se soigner. Si Final Fantasy XVI dispose d'un gameplay de base simple mais efficace, surtout grâce aux animations très stylées de Clive, c'est avec les pouvoirs des primordiaux qu'il devient tout simplement jouissif. Tout au long de l'aventure, Clive peut acquérir la puissance des primordiaux pour l'aider dans sa quête. Manette en main, cela se traduit par une compétence spéciale que le joueur peut utiliser quand il veut, ainsi qu'à deux capacités avec un temps de rechargement. Ces dernières profitent d'animations impressionnantes, bourrées d'effets, ce qui les rend aussi efficaces que spectaculaires. Dans l'arbre de compétences, chaque primordial propose 4 compétences différentes, dont une ultime avec un temps de rechargement beaucoup plus long que les autres. Il va donc falloir faire un choix car en combat, seules 2 compétences peuvent être choisies par primordial. Avec tous ces éléments en main, le joueur a de quoi faire des combos spectaculaires, d'autant plus que Clive peut s'équiper de 3 sets de primordiaux en même temps, dont on peut passer de l'un à l'autre d'une simple pression de touche. Après avoir dépensé suffisamment de points dans l'arbre de compétences, on peut même placer une compétence dans n'importe quel set, ce qui permet de créer sa configuration idéale en fin de jeu. Cependant, le système de combat de Final Fantasy XVI ne repose pas que sur le fait de frapper sans réfléchir pour venir à bout de son adversaire. Pour certains ennemis, on retrouve la mécanique de choc, introduite pour la première fois dans Final Fantasy XIII, et reprise dans Final Fantasy VII Remake, mais sous une forme encore différente. Sous la jauge de vie des boss et autres opposants résistants, on retrouve une jauge qui se réduit à chaque coup. Une fois vide, l'ennemi devient déstabilisé, c'est-à-dire à terre, et le joueur peut alors faire beaucoup plus de dégâts sur sa cible. Dans ce sens, certaines compétences de primordiaux permettent de faire baisser plus efficacement cette jauge, au lieu de faire des dommages conséquents. Et vous allez souvent avoir recours à cette mécanique, car certains monstres sont de vrais sacs à PV, surtout en New Game Plus. Si avec tout cela vous avez peur d'être perdu car vous n'avez pas l'habitude des jeux d'action, rassurez-vous, on a pensé à vous. Pour rendre le jeu plus accessible, les développeurs ont créé 5 accessoires qui facilitent certains aspects de l'expérience. Faire des combos en appuyant sur la même touche, ralentir l'action pour avoir le temps d'éviter une attaque, ou encore automatiser les attaques de Torgal, la consommation de potions ou encore les esquives. Jusqu'à 3 accessoires peuvent être équipés pour que tout le monde puisse profiter des combats comme il l'entend. Si on contrôle Clive la majeure partie du temps, Final Fantasy XVI nous propose également d'incarner des primordiaux à plusieurs occasions. Chaque combat se veut unique et propose une approche différente, allant d'une jouabilité proche de celle de Clive à une expérience de shoot'em up. Si ces affrontements sont sympathiques à jouer, il faut reconnaître qu'ils sont parfois trop longs. En réalité, c'est surtout visuellement que ces clashs sont impressionnants. Les développeurs ont fait en sorte que ces moments profitent de la mise en scène la plus épique possible, n'hésitant pas à s'inspirer d'animés. Dragon Ball, Naruto, l'attaque des titans et surtout Neon Genesis Evangelion, on retrouve toutes ces références pour nous faire ressentir la puissance des primordiaux. On ressent même l'influence d'autres jeux vidéo comme la première trilogie God of War, mais surtout la série Bayonetta pour proposer des combats qui décrochent la mâchoire du joueur. De manière générale, tous les combats de boss sont impressionnants et soyez rassurés, ils ne proposent pas tant de QTE que cela. Dans tous les cas, une chose est sûre, c'est que Final Fantasy n'a jamais proposé d'affrontement aussi épique de son histoire, surtout dans son final particulièrement spectaculaire. Voilà, du coup on va faire une petite pause dans ce test pour écouter une musique extraite de l'OST du jeu, c'est The Archduke of Rosaria, composé par Masayoshi Soken, et on revient juste après. Donc c'était la musique The Archduke of Rosaria de Masayoshi Soken, une musique extraite de l'OST du jeu Final Fantasy XVI. On va donc poursuivre avec la deuxième partie de ce test. Pendant longtemps, la structure de Final Fantasy XVI a suscité l'interrogation chez de nombreux joueurs. Assez rapidement, Naoki Yoshida a déclaré qu'il ne s'agirait pas d'un open world, mais d'une aventure proche de God of War de 2018 en termes de progression. Mais qu'en est-il concrètement ? En réalité, on peut dire que l'expérience se divise en deux parties bien distinctes. D'un côté, on retrouve des sortes de donjons qui sont des niveaux linéaires où on enchaîne les combats et dont on peut à peine s'écarter du chemin principal pour récupérer des objets. Il s'agit de moments qui servent avant tout à faire progresser l'intrigue et dont la structure rappelle beaucoup les donjons de Final Fantasy XIV, puisqu'on avance d'arène en arène. En plus de ces successions de combats, l'histoire nous amène à découvrir des niveaux ouverts avec des plaines remplies de monstres et des villages vivants. Si ces zones paraissent petites et linéaires au premier abord, on finit par se rendre compte que toutes les sections d'une même région ne forment qu'un tout, ce qui donne finalement de grandes aires de jeu. Entre ces deux types de niveaux, on passe la plupart de son temps au repère qui sert de hub, depuis lequel on peut acheter des objets et de l'équipement, mais aussi accéder à la carte du monde qui permet de se rendre dans une région ou dans un donjon. Pour autant, c'est bien dans sa structure que Final Fantasy XVI pêche le plus. Même si le jeu alterne entre donjons et niveaux plus ouverts, l'expérience est globalement assez linéaire et dirigiste. On se contente souvent d'avancer d'arène en arène jusqu'à un boss, ou d'un village à l'autre pour y faire de simples tâches qui débloquent le prochain donjon. Ce sentiment de répétitivité est d'autant plus présent que l'exploration est rarement récompensée, qu'importe le type de niveau choisi. Dévier du chemin principal permet uniquement de récupérer des objets souvent dispensables, que ce soit des potions ou des matériaux d'artisanat. Ajoutons à cela que l'équipement joue un rôle peu important dans l'expérience et on a encore moins de raisons de se balader dans Valistea, si ce n'est dans le cadre des quêtes annexes ou des chasses. Fort heureusement, on n'a pas non plus l'impression de subir le rythme de jeu comme dans Final Fantasy XIII, mais plutôt de se laisser porter comme dans un Final Fantasy X. Cela est dû à la qualité du scénario et à la dizaine d'heures de cinématiques qui accrochent le joueur. Et puis tout au long de l'aventure, on alterne entre des moments majeurs qui font progresser l'intrigue et d'autres moins captivants mais importants pour la suite. Malheureusement, c'est dans ces moments un peu plus secondaires que les cinématiques profitent d'animations simples et d'une mise en scène beaucoup plus plate, à base de chants contre chants qui ne sont pas sans rappeler Final Fantasy XIV. Cette structure et cette mise en scène datée créent un vrai décalage avec le côté moderne de l'expérience, ce qui sort régulièrement de l'immersion. Pour ce qui est du contenu annexe, il faut noter qu'il est souvent intéressant d'un point de vue de l'univers. Un peu comme un The Witcher 3, certaines quêtes secondaires sont bien écrites et explorent en profondeur les nombreuses thématiques qui parcourent Valistea, même dans les tâches les plus banales. Si cet univers vous intéresse, je vous recommande chaudement de les faire pour tout ce qu'elles apportent au lore. Mais en contrepartie, il faut reconnaître qu'elles sont rarement passionnantes. La plupart du temps, on se contente d'aller parler à quelqu'un, tuer des monstres ou rapporter un objet, ce qui fait que les quêtes secondaires sont rarement passionnantes d'un point de vue de gameplay. Pour terminer sur le contenu annexe, on peut noter que le titre propose en plus un tableau de chasse pour affronter de puissantes créatures, un peu comme dans Final Fantasy XII, de quoi prolonger la durée de vie d'une petite dizaine d'heures supplémentaires. Et pour ceux qui en redemandent, je vous rappelle que le titre propose un New Game Plus avec une difficulté plus élevée, des ennemis beaucoup plus résistants et la possibilité de forger des armes inédites. Une bonne occasion pour tester ses compétences débloquées en fin de jeu dont on n'a pas pu profiter. Plus qu'à travers son contenu, Final Fantasy XVI est pensé pour être rejoué afin de tenir les joueurs en haleine à travers des challenges comme des modes de difficulté plus élevés ou des défis. Pour terminer ce tour d'horizon de Final Fantasy XVI, il est temps d'évoquer la question des graphismes. Visuellement, il faut reconnaître que cet épisode est réussi. Tout au long de l'aventure, Valistea est un ravissant monde de fantasy qui propose de magnifiques panoramas, notamment grâce aux gigantesques cristomères. Ces paysages témoignent du travail de l'équipe artistique sur les environnements et sur l'architecture pour conférer un charme unique à cet univers. Cette beauté se retrouve également dans les cinématiques de l'intrigue principale, qui sont particulièrement soignées, ce qui donne lieu à des animations faciales crédibles pour les personnages. Et puis comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, c'est surtout les affrontements entre primordiaux et les combats de boss qui en mettent plein les yeux, autant en termes de mise en scène que d'effets visuels. Puisque le titre est une exclusivité PS5, il tire efficacement parti des composants de la console, comme le SSD qui permet de se rendre d'un bout à l'autre de Valistea en quelques secondes, ce qui est toujours confortable. Pour autant, Final Fantasy XVI n'est pas une expérience technique complètement sans reproche. Dans les donjons, le titre comporte de nombreux passages étroits et autres portes à pousser avec des QTE, qui sont en réalité des temps de chargement déguisés. Et c'est aussi du côté de la fréquence d'image qu'il y a des choses à redire. En mode performance, les combats de Final Fantasy XVI sont la plupart du temps fluides, côtoyant souvent le 60 images par seconde avec de très rares ralentissements lors des combats de boss avec le plus d'effets. Pour ce qui est des cinématiques, ces dernières sont en 30 images par seconde, même en performance. En revanche, c'est plutôt lors de l'exploration de certains villages et entre deux combats qu'on note que le framerate tend à connaître des hauts et des bas en mode performance. Certes, le jeu n'est jamais au point de ramer et de passer sous la barre des 30 images par seconde, mais ces variations sont suffisamment fréquentes pour s'en rendre compte à l'œil nu. Conscient des problèmes, les développeurs ont annoncé qu'un patch allait être déployé pour corriger ce problème. Voilà ce qui termine ce test de Final Fantasy XVI. On va s'écouter tout de suite une autre petite musique extraite de l'OST du jeu. C'est Benedictas Sokts et de Masayoshi Soken, et on revient juste après. Donc c'était la musique Benedicta Souls de Masayoshi Soken, une musique extraite de l'OST du jeu Final Fantasy XVI. On va faire une petite pause publicité et on revient juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5, toutes plateformes confondues, on a en 5e place Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 4e place, c'est F1 23 sur PS4, un jeu d'Electronic Arts. En 3e place, c'est Diablo 4 sur PS5, un jeu d'Activision Blizzard. En 2e place, F1 23 sur PS5. Et en 1ère place, c'est The Legend of Zelda Tears of the Kingdom sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. Le top 3 pour la PS5, on a en 3e place Call of Duty Modern Warfare 2, en 2e place Diablo 4 et en 1ère place F1 23. Pour la Xbox Series, on a en 3e place Diablo 4, en 2e place Diablo 4 le pack CrossGen et en 1ère place F1 23. Pour la PS4, on a en 3e place Hogwarts Legacy, en 2e place Diablo 4 le pack CrossGen et en 1ère place F1 23. Pour la Xbox One, on a en 3e place Grand Theft Auto 5, la Premium Edition. En 2e place FIFA 23 et en 1ère place Hogwarts Legacy. Pour la Nintendo Switch, on a en 3e place The Legend of Zelda Breath of the Wild. En 2e place Mario Kart 8 Deluxe. Et en 1ère place The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Le dernier top, c'est le top 3 PC avec en 3e place Minecraft Java and Bedrock. En 2e place, X-Plane 12 et en 1ère place, Microsoft Flight Simulator, l'édition Premium Deluxe. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Donc après Disney Dreamlight Valley, Animal Crossing a droit à un nouveau concurrent avec Hello Kitty Island Adventure. Prévu pour le mois prochain, ce projet reprend tout ce qui a fait le charme de la franchise de Nintendo, avec quelques éléments en plus. Depuis le carton d'Animal Crossing New Horizons en 2020, les jeux bac à sable à la fois relaxants et bienveillants sont à la mode. Si on a récemment eu droit à Disney Dreamlight Valley, qui se repose sur les franchises de la firme de Mickey, un nouveau concurrent entre dans la compétition. Le 28 juillet prochain, Hello Kitty Island Adventure débarque sur Apple Arcade, ce qui veut dire qu'il sera jouable sur tous les appareils Apple. De quoi faire de l'ombre à Animal Crossing Pocket Camp. Donc comme son nom l'indique, le titre se déroule sur une île tropicale que le joueur peut explorer mais aussi personnaliser avec de nouvelles constructions et des décorations. En plus des personnages de l'univers d'Hello Kitty, le joueur pourra créer son propre avatar, toujours aux allures d'animal anthropomorphique kawaii. D'après la fiche du jeu sur l'Apple Arcade, les joueurs pourront crafter des objets rares, résoudre d'anciens puzzles ou encore décorer des cabines. En plus de tout cela, on peut noter dans le trailer qu'on voit des personnages pêcher, explorer des environnements différents comme un désert ou une montagne, et même se déplacer en utilisant des ballons colorés. Ce qui a pu en interpeller certains, c'est que le joueur semble pouvoir découvrir des fonds marins en sirène, mais aussi explorer des temples sur des chariots de mine, poursuivis par une boule géante. Au-delà de ces petits moments d'aventure, les joueurs pourront toujours s'amuser à cuisiner de retour sur leur île tropicale paisible. Si Hello Kitty Island Adventure s'inspire évidemment d'Animal Crossing, il est assez amusant de voir que les deux franchises ont déjà collaboré par le passé à plus d'une occasion. On se souvient que ce partenariat s'était traduit dans les cartes Amiibo pour l'épisode 3DS Animal Crossing New Leaf, Welcome Amiibo, dans la version mobile Pocket Camp et New Horizons. Des objets de la licence de Sanrio avaient également été ajoutés, tandis que certains villageois affichaient des vêtements d'Hello Kitty. Voilà. On passe maintenant à la news technologie. Donc lancée le 21 juin dernier sur Disney+, la nouvelle série Marvel Secret Invasion fait polémique. En effet, Marvel a utilisé l'intelligence artificielle pour réaliser son générique d'ouverture. Donc, je cite, « Cela faisait partie de notre envie. On voulait mettre en avant l'identité changeante insaisissable des Skrulls, d'après donc les propos de Marvel. » Pour le générique d'ouverture de Secret Invasion, Marvel a bel et bien fait appel à une intelligence artificielle. Ali Selim, producteur et réalisateur, a confirmé cette information. Je cite, « Conçue par Method Studios, la séquence en question est un montage de peinture style cubiste qui dépeigne l'invasion de la Terre par les Skrulls. Lorsque nous avons contacté les fournisseurs d'intelligence artificielle, cela faisait partie de notre envie. On voulait mettre en avant l'identité changeante et insaisissable des Skrulls. Qui a fait ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas comment ça marche, mais nous leur avons parlé des idées, de thèmes, de mots, puis l'ordinateur a fait son travail. On avait le rendu et nous pouvions alors changer quelques trucs et le générique était ainsi modifié. Cette décision a fait réagir négativement beaucoup de fans sur les réseaux sociaux puisque l'utilisation de l'intelligence artificielle a privé de travail de vrais graphistes et artistes. Voilà, le débat toujours de l'intelligence artificielle. On va maintenant finir l'émission avec les quelques petites sorties de la semaine. Donc on a eu deux sorties aujourd'hui vendredi 30 juin avec Master Detective Archives Raincode sur PC et Switch et Everybody Want to Switch sur Nintendo Switch. Et la dernière sortie de la semaine, ça sera pour mardi 4 juillet avec le jeu Synapse qui sortira sur PS5 avec le PSVR 2.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour notre émission Asian Bubble, que vous pourrez retrouver lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchè fête.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.